Alors vous avez entendu le passage de Matthieu. Quel titre pourrions-nous donner à ce passage ? Appel de Matthieu par Jésus. Mais aussi mauvaise fréquentation. Ou bien un déjeuner houleux. Ou bien règles d'inclusion et d'exclusion. Ces titres montrent que plusieurs thèmes peuvent être développés. À partir d'un appel, on peut être amené à reconsidérer notre manière de voir les autres. À partir de l'appel de Jésus, tout est bouleversé. Le bouleversement concerne d'abord Matthieu. Il est en train de travailler, son rôle est de recueillir les taxes et les impôts pour le compte de César dans l'Empire romain. Il fait partie des collecteurs d'impôts ou péagers, des personnes scandaleuses pour leurs concitoyens, haïs et méprisés, parce qu'évidemment, ces gens-là en profitaient pour en prendre pour eux au passage. Donc les vexations, les fraudes, les malversations, tout ça, ils se faisaient mal voir. Et ils étaient donc assimilés aux non-pratiquants de la loi juive, et les Israélites les appelaient des pécheurs ou des gens de mauvaise vie. Et nous avons une autre histoire dans l'Évangile, l'histoire de Zachée. Zachée était le chef des collecteurs d'impôts. Jésus est en route. Il voit Matthieu, il l'appelle et Matthieu le suit. On dirait que Jésus ne s'arrête même pas. Il entraîne Matthieu simplement par la puissance de sa présence. Et puis ensuite, eh bien, pendant le repas, Jésus va avoir l'occasion de donner des enseignements. Ce passage, on le trouve dans l'évangile de Marc et de Luc aussi, avec d'autres détails. Dans Marc et Luc, l'homme s'appelle Lévi, et dans Matthieu, il s'appelle Matthieu. On se demande si l'évangile de Matthieu... En fait, il faut dire un truc, c'est que les évangiles n'avaient pas de nom au départ. On ne savait pas qui les avait écrits. Il a fallu mettre les noms après. Et donc, on se demande si cet évangile de Matthieu n'a pas été écrit évangile de Matthieu parce qu'il y avait justement cette différence. Autre précision dans Luc, parce que là on ne sait pas la maison de qui c'est, hein, mais là dans Luc il dit c'est bien la maison de Lévi, donc de la personne appelée. Ça, c'est pas dit dans notre évangile, mais en fait c'est confirmé par le fait finalement que Matthieu a invité ses amis collecteurs d'impôts. Sa conversion ne le fait pas rejeter ses anciens amis. Quand Jésus appelle quelqu'un, il ne lui demande pas de se couper des personnes qu'il a connues avant. Au contraire, la personne qui se tourne vers Jésus et qui met son espoir en lui devient un témoignage pour les autres qui le connaissaient autrement. Et évidemment, on peut imaginer leur curiosité, comme on sait que quand on devient pasteur, notre entourage est très curieux de notre choix. Alors, en s'invitant chez Matthieu, Jésus assume parfaitement de venir manger avec lui. Il sait discerner les capacités de chacun. Si Matthieu peut le suivre, peut-être qu'il n'en est pas de même des autres collecteurs d'impôts qui vont l'écouter. Et Jésus prend cette occasion pour faire entendre une nouvelle manière de voir les choses. Mais curieusement, on pourrait se dire, il va enseigner ceux qui sont autour de lui, les gens de mauvaise vie. Eh bien, curieusement, ce n'est pas ces gens-là qui vont devoir apprendre quelque chose. Ce sont les observateurs. Des observateurs qui se disent bien pensants. Le repas était un lieu de fraternité. N'oublions pas que c'était un des signes du royaume que Jésus venait annoncer. Et puis, on voit les pharisiens apparaître. Les pharisiens, ce n'est pas franchement des amis de Jésus, mais c'est des gens qui discutent. Les pharisiens ne sont pas à table. Alors, le repas était-il un tel objet de curiosité? Ou bien est-ce que Jésus était pisté, en quelque sorte? En tout cas, ils regardent ce qui se passe. Ils ne s'adressent pas à Jésus, non. Ils s'adressent aux disciples. Pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ? Alors Jésus, il ne laisse pas les disciples répondre, il va assumer et il s'adresse à eux directement Et comme toujours, il décale sa réponse. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. En disant cela, Jésus laisse sous-entendre qu'il ne vient pas pour eux, les pharisiens. Les pharisiens sont des bien-pensants qui se pensent bien portants et donc ils n'ont besoin de personne. Ils vivent leur foi avec la loi, tranquille. Ils n'ont besoin de personne. Bon, ne soyons pas trop rapides dans nos jugements. Nous aussi, nous nous croyons bien portants et bien pensants. Nous nous mettons du côté des justes et quand nous côtoyons quelqu'un qui ne nous paraît pas toujours fréquentable, eh bien, nous avons plutôt tendance à l'éviter et à le fuir. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Alors Jésus va faire un parallèle, évidemment, entre les pécheurs et les malades. Et dans ce même chapitre, dans ce chapitre 9, il parle beaucoup de guérison. Il se présente comme le médecin, comme le thérapeute. Une théologienne, Christine Prieto, a édité un livre il y a quelques années avec ce titre, « Jésus thérapeute ». Alors qu'est-ce que ça change de parler de maladie et d'un Jésus qui guérit ? Eh bien, cela fait sortir la situation d'une morale bien pensante qui enferme et qui exclut. Jésus part de la réalité du terrain, de cette situation impossible de l'occupation romaine. Il part de ces hommes qui n'ont peut-être pas beaucoup le choix de leur métier, et le fait de manger avec eux montre que leur vie est digne d'être considérée. Il peut oser la fraternité avec eux. Il sait qu'il doit leur apporter du soin et non une morale. Le soin transforme quelqu'un qui a été maltraité. Mais la morale ne fait qu'enfermer dans la culpabilité. Manger avec eux, c'est déjà leur faire du bien, alors qu'ils sont exclus de la société, il leur ouvre un chemin possible. C'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice, dit le prophète Osée. Jésus cite ce prophète. Et le sacrifice, eh bien, c'est quoi ? C'est quémander l'amour de Dieu ? C'est se renier soi-même, en quelque sorte ? C'est être dans une logique de peur ? C'est avoir peur que Dieu ne m'écoute pas, qu'il soit dur avec moi ? C'est se tromper sur l'image de Dieu. Parce que non seulement on ne peut pas acheter le salut de Dieu, mais en plus, on n'est pas toujours prêt à recevoir l'amour qu'il nous donne gratuitement. La miséricorde en grec, c'est eleos. Cela donne eleison, qu'on traduit par épitié. En hébreu, c'est chesed, la bonté fidèle, l'attachement. La phrase entière que dit Jésus, c'est « Allez apprendre ce que signifie, c'est la bonté que je veux, non le sacrifice. » Il y a donc quelque chose à apprendre. Peut-être qu'on n'est pas prêt pour recevoir la bonté de Dieu, gratuite. On a tellement besoin de la mériter. Dieu veut la bonté. Souvenons-nous de la parabole des ouvriers de la 11e heure. Vous savez, ces ouvriers qui sont payés le même salaire, alors qu'il y en a qui ont travaillé toute la journée, et d'autres juste une heure. Eh bien, le maître répond à ceux qui murmurent contre lui, qui disent « c'est pas juste ». Le maître dit « ton œil est-il mauvais ? Parce que je suis bon ?» Oui, la bonté de Dieu dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Elle dépasse toutes les religions. Et nous avons à en apprendre quelque chose de la bouche de Jésus. Jésus demande d'élargir notre horizon de pensée et de repousser les limites de notre jugement. Alors évidemment, il faut se faire violence. Et je suis la première à devoir me faire violence, parce que nous sommes très rapides à nous juger, à nous exclure les uns les autres. Alors j'aimerais prendre des exemples. Et je commence par un exemple dans l'actualité du monde, qui m'a impressionnée, dans la volonté de dépasser les jugements et surtout les haines. On est tous très concernés et très tristes sur ce qui se passe en ce moment sur la terre de Palestine entre Israël et les Palestiniens, et notamment à Gaza. Alors, il y a deux hommes dont on raconte l'histoire dans le dernier journal Réforme. Réforme, vous savez, c'est notre journal protestant. Et c'est une très belle histoire. Leur nom est Aziz Abou Sarah et puis Maoz Inon. Je cite un petit passage de Réforme. L'un est palestinien, l'autre est israélien. Depuis près de 2 ans, ils arpentent ensemble Israël, la Palestine et le monde. Pour montrer que le dialogue et la paix sont possibles, un voyage au long cours, commencé il y a 20 ans, chacun de son côté. Fin de la citation. Et donc ils sont en train de sortir un livre qui s'appelle « La paix est notre avenir ». Alors oui, se tourner résolument vers la vie porte du fruit. Ils ont réussi à dépasser tout ce qui les séparait. Et on peut imaginer les critiques de leur entourage, les accusations de trahison. Mais vous savez tous que la volonté humaine peut faire tomber des murs. Soutenons-les. On peut le faire dans la prière. On peut le faire aussi en les mettant en avant dans nos conversations. En mettant en avant toutes ces initiatives de paix qui existent. Mais il faut aller les chercher, ce n'est que par nous qu'elles seront vivantes, ces initiatives, et qu'elles seront retransmises, et qu'elles feront équilibre avec les mauvaises nouvelles. En France maintenant, comment apprendre à faire reculer nos jugements sur les autres? Comment apprendre la bonté et non l'exclusion? Parce que souvent il y a des mondes parallèles, le monde des pauvres, le monde des riches, enfin, etc., etc. Vous aurez sûrement des tas de catégories en vue. Je reçois personnellement des courriers de l'association La CIMAD qui nous alerte sur le recul année après année du droit des réfugiés et des étrangers. Et on sait qu'en France, c'est très difficile en ce moment de renouveler les papiers alors que les personnes sont complètement en règle. Et aussi au niveau européen, les politiques migratoires européennes deviennent plus répressives et sécuritaires. Et pourtant, dans le même journal, et oui, il y a un article sur les couloirs humanitaires qui, depuis 10 ans, ont permis à 500 Syriens et Irakiens de venir en France de façon sécurisée, avec des familles. Et aujourd'hui, à des Libanais. Ils ont été accueillis dans des familles avec des communautés d'accueil très bien organisées. C'est organisé en particulier par la Fédération de l'entraide protestante, qu'on peut soutenir, on peut s'y intéresser, on peut y participer. Et même nos amis catholiques, cette semaine, nous ont invités à une réunion d'information sur l'accueil des étrangers pour pouvoir se mettre avec eux. Parce qu'évidemment, on ne peut pas le faire tout seul. Alors nous pouvons en France aussi réfléchir à nos choix civiques. Nous allons voter l'année prochaine. C'est à nous de regarder attentivement ce qui est le plus en phase avec l'enseignement de Jésus qui se démarque d'une morale excluante. Et puis pour finir, apprendre aussi en observant notre vie personnelle, en analysant notre vie personnelle, la façon dont nous parlons aux uns et aux autres, la façon peut-être que nous avons de parler des uns et des autres. Oui, le regard de Jésus nous invite à apprendre encore et toujours. Il n'est jamais trop tard pour changer. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup qui dit « Aujourd'hui est le premier jour du reste de ta vie ». Apprendre à décaler notre propre regard, apprendre à aimer sous le regard de bonté de Dieu. Alors, je termine avec une phrase du théologien Dietrich Bonhoeffer. « Le peuple de Dieu doit vivre au loin parmi les incroyants, mais il sera par là même la semence du royaume jetée dans le monde entier. Amen. »